Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous aimeriez pouvoir analyser l'audience de votre site sans pour autant donner un boulevard à Google pour pomper les données personnelles des personnes qui visitent votre site ? Vous voulez vous débarrasser de Google Analytics ? Ça tombe bien, une alternative existe. Il s'agit du logiciel libre Matomo, et c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme, à qui accorder sa confiance en matière d'informatique, et la deuxième partie de la chronique de Laurent et Laurette Costi sur les moteurs de recherche. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 février 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, une chronique préenregistrée et lue par Laurélise Deniel, intitulée « Accorder sa confiance d'abord aux siens ». On se retrouve dans 9 minutes. Bonne journée à l'écoute de Cause commune, la voix des possibles.
Aujourd'hui, Marie-Odile souhaite revenir sur l'échange intervenu entre Étienne Gonu, chargé d'affaires publiques à l'April, et le député Philippe Latombe, auteur d'un rapport d'information intitulé « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne. Échange intervenu lors de l'émission Libre à vous, numéro 113, du 7 septembre 2021. Vous trouverez la référence dans la page de l'émission du jour. Les choix de solutions logicielles faits aujourd'hui par les entreprises et par imitation par les administrations sont dictés par l'impératif d'une efficacité rapide. Rien de plus facile et confortable que de prendre une solution américaine, bien que d'autres solutions existent. On l'a vu notamment au sein de l'éducation, au moment de la pandémie. C'est d'ailleurs la pandémie, indique le député, qui a généré ce travail politique avec mise en perspective de notre situation d'addiction, de dépendance qui n'est pas acceptable. Il existe plusieurs définitions de l'expression « souveraineté numérique ». Le député nous propose de retenir que c'est la capacité à pouvoir faire un choix, le maîtriser, c'est-à-dire avoir en permanence la capacité de refaire ce choix dans le temps, de pouvoir changer, migrer vers une solution française ou européenne si elle émerge ultérieurement. La dimension européenne est importante. Dans la zone Europe, nous partageons les mêmes valeurs, notamment portées par le RGPD, le règlement sur la protection des données, entré en vigueur en 2018. Constat est fait qu'il y a aujourd'hui émergence du logiciel libre. En quoi le logiciel libre est-il un élément constitutif d'une politique ambitieuse de souveraineté numérique ? Le rapport propose 65 solutions concrètes et parmi les 30 propositions clés, celle assez radicale et ambitieuse qui rejoint la position défendue depuis des années par l'April d'une priorité au logiciel libre dans le secteur public. Imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre en faisant de l'utilisation des solutions propriétaires une exception. Quelle est la méthode proposée ? Il faut que l'administration se pose, réfléchisse et exprime ses besoins dès le départ, prenant en considération la transparence, l'ouverture des données, l'ouverture des algorithmes, le développement futur, se réservant ainsi la possibilité de pouvoir changer, faire un choix différent dans quelques années. De même, la protection de l'intimité, la vie privée, doit être envisagée en amont du développement du projet. Cela implique certainement une transformation de la gestion de projet et de la gestion de la commande publique au sein de l'administration, allant jusqu'à des changements culturels, c'est-à-dire systématiquement penser libre. Il faut ensuite transformer l'expression du besoin en une solution technique, donc regarder ce qui existe en libre et le choisir. Si jamais, pour des raisons très particulières qu'on documente, aucune solution libre ne peut satisfaire ce besoin, alors, exceptionnellement, on peut se tourner vers une solution propriétaire, mais en gardant toujours la possibilité de basculer ultérieurement sur du libre en cas de mise à disposition d'une telle solution. On agit ainsi dans le bon sens. Cependant, il faut aller plus loin.
non seulement soutenir le logiciel libre en tant que commun informationnel, mais penser développement, c'est-à-dire faire en sorte que les pouvoirs publics deviennent des contributeurs, des acteurs, que ce soit par les agents, par des moyens accordés, des politiques menées pour le bénéfice de tous. Des compétences sont nécessaires ainsi qu'une actualisation des connaissances. Pour que les acheteurs publics sachent à l'avance quelles sont les évolutions technologiques qui sont en cours afin de les intégrer dans les futurs process, le député propose d'envisager des allers-retours de techniciens, d'ingénieurs, entre le privé et le public, afin d'avoir des échanges, de mutualiser les bonnes pratiques. On aura alors davantage de nouvelles techniques dans les administrations, mais aussi une meilleure connaissance, par le privé, de ce que sont la gestion de projet et le fonctionnement de la commande publique, particulièrement concernant la façon dont les administrations acquièrent du logiciel. Bien entendu, un encadrement strict de ces allers-retours sera facilité en privilégiant systématiquement le recours au logiciel libre, l'objectif étant que l'État puisse innover, faire du développement ce que le libre permet facilement. La commande publique est aussi un outil qui permet de s'adresser aux spécificités des entreprises locales, proches des citoyens et plus à même de répondre à leurs besoins. C'est bien là une spécificité du logiciel libre que de pouvoir s'adapter, raison pour laquelle il doit être préconisé au sein des collectivités. Les administrations sont tenues à une mission de service public. Elles doivent répondre à des impératifs d'intérêt général. Cette contribution au logiciel libre par les pouvoirs publics, un commun informationnel qui bénéficie à toutes et à tous, n'est pas uniquement une question technique, mais un enjeu éminemment politique. L'émancipation individuelle est aussi extrêmement importante et elle commence par l'enseignement dès le plus jeune âge des connaissances fondamentales. Qu'est-ce qu'un algorithme ? Qu'est-ce que du code ? Par l'apprentissage, il faut donner aux citoyens le bagage culturel, le minimum de savoir pour qu'ils puissent comprendre et aborder ce monde dans lequel nos libertés fondamentales, nos intimités, mais aussi nos relations avec les pouvoirs publics dépendent de plus en plus d'outils informatiques. Étienne Gonu nous rappelle qu'il est indispensable d'étudier avec des logiciels libres en tant qu'outils informatiques, mais aussi de les étudier en tant qu'objets afin de développer son esprit critique. La personne ne doit pas simplement consommer du numérique, mais être aussi dans la capacité à comprendre, donc d'exprimer ses propres choix. Dans cet échange, le rapport du député Éric Botorel, intitulé « Pour une politique publique de la donnée », publié en décembre 2020, est mentionné. Le député Botorel était l'invité de l'émission « Libre à vous » du 19 janvier 2021. Il est aussi fait mention de la circulaire du Premier ministre du mois d'avril 2021 qui reprend la proposition du rapport Botorel consistant à créer une mission logiciel libre au niveau interministériel. C'est un très bon signe. La migration de l'ensemble des administrations vers le logiciel libre, l'ouverture totale des algorithmes et des données dans toute la fonction publique, ministère et collectivité territoriale, en sera la traduction concrète attendue. Il faut que l'administration se dise que la règle absolue, c'est le libre. Open source, open data. La transparence permettra aux personnes compétentes d'expertiser les algorithmes puis les logiciels. On pense à Parcoursup, mais aussi aux logiciels d'aide aux décisions de justice dans lesquels, nous rappelle Étienne Gonu, des biais racistes perdurent. Il n'existe aucune technique neutre. Pour terminer, Marie-Odile rappelle le titre choisi pour cette chronique, accorder sa confiance d'abord aux siens, suite aux propos éclairants du député. Pour développer de façon importante le tissu du monde de la tech, faire en sorte que les entreprises françaises soient en capacité d'exporter leurs solutions, l'État doit devenir un client, voire un très bon client. La confiance accordée par les pouvoirs publics aux entreprises du libre, à son écosystème en général, sera un gage de fiabilité, une référence pour répondre à des marchés, en Europe et ailleurs, soulignant à nouveau le rôle important de la commande publique. Nous invitons les auditeurs et auditrices à écouter cet échange, à lire ou relire sa transcription. Nous souhaitons sincèrement que les collègues du député Latombe, le personnel politique dans son ensemble, entendent cet appel. Comme il l'avait annoncé avant de se congédier d'Étienne Gonu, le député Latombe a pris, suite à la publication de ce rapport, son bâton de pèlerin pour aller convaincre du bien fondé de ses propositions afin que soient mises en place des solutions pour construire cette souveraineté numérique que tous invoquent. Il a été très prolifique ces derniers mois, et divers enregistrements audio et vidéo de ses interventions mériteraient d'être transcrits pour donner encore plus de relief, en particulier à la proposition de bon sens. Données ouvertes, ouverture des algorithmes et priorité aux logiciels libres au sein de l'administration.
C'était la chronique Les Transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, lue par Laure-Élise Deniel il y a quelques jours. Je vous propose à présent de faire une pause musicale. Nous allons écouter Terror Boy. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Playmate par Terror Bird, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'analyse d'audience de sites web et sur le logiciel libre Matomo. Il s'agit d'une rediffusion du sujet principal de notre émission 111 du 22 juin 2022. Alors le choix de cette rediffusion ne tient pas au hasard. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais les éditeurs de sites web ont souvent besoin d'analyser l'audience de leur site. Combien de personnes se connectent, à quelle heure, où cliquent-elles, etc. Des informations utiles, ne serait-ce que pour améliorer l'ergonomie d'un site et en faciliter la navigation. Bon, et bien sûr aussi pour vendre de la pub pour les sites que ça concerne. Jusqu'à présent, l'outil le plus connu et le plus utilisé pour cela est Google Analytics. Léger hic, naviguer sur un site utilisant cet outil revient à livrer un paquet d'informations personnelles à la voracité de Google. Mais il n'y a pas de fatalité. Dans une très récente délibération, la CNIL, l'autorité administrative en charge de veiller au respect du règlement général sur la protection des données personnelles, la CNIL donc, a conclu que les transferts vers les États-Unis des données collectées par Google Analytics sont illégaux. La délibération résulte d'une plainte et vise un site en particulier, mais elle concerne évidemment l'ensemble des éditeurs de sites français qui vont rapidement devoir trouver une alternative, ou cesser d'utiliser les fonctionnalités litigieuses. Alors vous souhaitez savoir comment vous débarrasser de Google Analytics pour les besoins de vos sites web ? Plus généralement, vous aimeriez pouvoir analyser l'audience de votre site sans pour autant donner un boulevard à Google pour pomper les données des personnes qui visitent vos sites. La solution existe, elle s'appelle Matomo, un logiciel libre d'analyse d'audience. Je vous propose donc d'écouter cet échange, animé par mon collègue Frédéric Couchet, où il était question donc de ce logiciel libre et puis plus généralement des enjeux autour de l'analyse d'audience de sites web. On se retrouve dans environ une heure, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'analyse d'audience de sites web et le logiciel libre Matomo avec nos deux invités en studio, ce qui est assez exceptionnel vu les conditions, vu que la dernière fois que nous avons eu des personnes en studio pour le sujet long, eh bien ça date du 10 mars 2020, c'est-à-dire une semaine avant la date du premier confinement, donc c'était un grand plaisir de vous avoir en studio. Donc avec nous, Alexandre Bulté, directeur de technique d'Etalab. Bonjour Alexandre.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo. Bonjour Ronan.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, donc, nous allons parler donc, d'analyse d'audience de site web et du logiciel Matomo. Mais avant de commencer par le sujet, on va commencer par une présentation peut-être personnelle rapide de vous présenter. Donc, on va commencer par Alexandre Bulté.
Oui, bah, merci beaucoup de me donner déjà cette occasion de s'exprimer en studio, dans ces studios historiques. Enfin, je suis ravi. Alexandre Bulté, donc, je suis directeur technique d'Etalab. Etalab, c'est un département de la DINUM et notre mission, c'est d'ouvrir, partager et valoriser les données publiques. On fait ça au niveau interministériel, puisque la DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Donc, ça veut dire que c'est pas nous qui faisons tout à la place des ministères, mais on essaye d'insuffler, de montrer la voie, de mettre à disposition des outils pour tout ce qui est, on va dire, politique de la donnée dans l'État français. Historiquement, et notre produit le plus connu encore aujourd'hui, c'est data.gouv.fr, donc la plateforme ouverte des données publiques françaises, l'open data, comme on dit en mauvais français. Voilà, donc moi je suis arrivé chez Etalab il y a 4 ans, après un parcours assez classique, on dit ESN maintenant, je crois, avant à mon époque.
Entreprise de services numériques,
voilà.
C'est ça.
On disait société de services en informatique à l'époque. Et j'ai toujours trempé depuis ma première Red Hat 9, il y a un petit moment maintenant, dans l'open source. Ça a toujours été important pour moi d'utiliser des logiciels open source, notamment dans mon travail. Et donc voilà, quelque part, j'ai trouvé une certaine continuité chez Etalab et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger sur un logiciel libre tel que Matomo ici.
D'accord. Alors le site d'Etalab, c'est etalab.gouv.fr sur lequel on retrouve toutes les informations. Renan Chardonneau.
Ouais, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis formateur indépendant, consultant sur Matomo Analytics à temps quasiment à temps plein, ou en tout cas 70% depuis maintenant 2015. On va dire année à laquelle j'ai décidé de prendre ce pari un petit peu foufou de développer toute une activité autour de Matomo exclusivement. Je suis également un maître de conférence associé à l'IAE d'Angers que je salue depuis 2012. Ça va bientôt faire bientôt 10 ans que j'enseigne le marketing digital là-bas. Et j'ai eu la chance en fait de travailler au sein de l'équipe de Matomo de 2017 à 2019. En fait, j'ai été vraiment le premier employé de leur équipe, en tout cas de la nouvelle structure que Mathieu Aubry a créée. C'était en 2016. Donc voilà, donc j'ai travaillé pendant 2 ans pour eux avec un décalage de 12 heures avec la Nouvelle-Zélande puisqu'ils sont situés en Nouvelle-Zélande et j'ai la chance d'être en tout cas cette spécialité que j'ai développée qui est d'être un marketeur mais vraiment qui fait du marketing avec du logiciel libre, donc ce qui est un petit peu ce qui est pas courant quand justement l'univers du marketing digital est surtout dominé par des solutions telles que Google, Microsoft et autres.
D'accord. C'est vrai que marketing digital, on l'entend assez rarement ici, mais on va y revenir. Ton site web, je précise, c'est renan-chardonneau.fr. Et je précise que toutes les références qu'on citera au cours de l'émission, on mettra un lien à tous les liens sur la page consacrée à l'émission sur les sites april.org et causecommune.fm. Donc voilà, comme ça, vous n'aurez pas à tout noter. Alors, avant de parler de Matomo, qui est l'outil logiciel dont on va parler aujourd'hui, on va commencer par la question, c'est pourquoi utiliser un outil d'analyse d'audience ou de marketing de site web. On va commencer par ça. Ensuite, on parlera du plus connu, en tout cas de celui sans doute que les gens connaissent le plus et des problématiques qu'ils peuvent poser. Et on finira évidemment avec une grosse partie sur Matomo. Mais déjà, donc la première question, pourquoi faire de l'analyse d'audience, du marketing de site web comme tu as parlé plusieurs fois du terme marketing. Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Voilà. Pourquoi on fait ça? Renan Chardonneau.
Ouais, alors vraiment la base dans l'analyse d'audience, c'est on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Vraiment, ça c'est vraiment le point fondamental. Donc on est sur des logiciels qui sont là pour analyser en fait ce qui se passe à l'intérieur du système d'information dans lequel on l'a embarqué. Donc que ce soit un logiciel, que ce soit un site internet, que ce soit une application mobile, que ce soit on va dire même un objet connecté. Enfin bref, tout système d'information. Le but d'ailleurs, c'est d'analyser plusieurs choses. Alors généralement sur les solutions d'analyse d'audience, j'ai envie de dire grand public, comme Matomo Analytics, c'est vraiment, on va analyser les caractéristiques de l'utilisateur, donc ça répond à la question de qui. Ensuite, on va analyser qu'est-ce qu'il fait, donc ça c'est plus la partie comportementale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il utilise l'application, quel écran il regarde, quelles actions il effectue, est-ce qu'il est en train de scroller, où est-ce qu'il a appuyé, où est-ce qu'il a cliqué. Donc ça c'est vraiment cette deuxième partie, la partie comportementale, et souvent la troisième partie qu'on va mentionner, ça va être comment il est venu, comment il a connu du coup cette application ou le site internet, qui est du coup la partie acquisition. Et puis après, en fonction du logiciel qu'on a, on a différentes briques qui peuvent venir se rajouter. Typiquement avec Matomo, on a ce qu'on appelle la marketplace, le concept de plugin, qui vont permettre de rajouter plein de plein de fonctionnalités en plus, hein. Donc typiquement on peut imaginer des cartes qui vous montrent comment la souris de l'utilisateur se balade sur l'écran, ou au contraire les informations qu'il enverrait par l'intermédiaire d'un formulaire, ce genre de choses.
D'accord, alors ça me fait penser que j'ai oublié, parce que je vois une remarque sur la salle web de la radio, j'ai honteusement oublié de dire que vous pouvez participer à notre échange en posant des questions ou faisant des remarques, donc sur le salon web dédié à l'émission, donc le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et donc je vois déjà une première remarque de Marie-Odile, donc c'est Marie-Odile Morandi, hein, notre célèbre transcripteuse de, je sais pas si elle se dit transcripteuse, en tout cas qui fait de très nombreuses transcriptions pour le site librealire.org, et qui nous dit c'est un peu indiscret tout ça. Alors effectivement, Renan, est-ce que là tu as parlé effectivement de parcours, de visite, etc. Donc ça veut dire que on surveille ce que fait la personne qui va sur notre site web.
Alors cette notion de on surveille qui, faut savoir qu'elle est quand même aujourd'hui bien résolue, hein, puisque avec tout ce qui est RGPD, mais aussi tout ce qui était les lois avant, hein, qui était tout ce qui est la loi sur les paquets télécom, ce genre de choses, de plus en plus rentrent les critères d'anonymisation qui font que on peut pas réellement savoir au final. Enfin si, on peut techniquement savoir ce qui se passe, mais on est un petit peu dans l'illégalité, hein, quand on regarde justement les dernières lignes directrices qui ont été dictées par la CNIL et qui date de mars de cette année. Là, on est clairement sur on n'a pas le droit de descendre à un niveau plus bas que l'utilisateur. Enfin, on n'a pas le droit justement de récupérer des données qui concernent l'utilisateur, ça doit être uniquement des données agrégées. Donc à partir de là, on est, on va dire, sur du global, sur des tendances, on n'est pas au niveau de l'utilisateur, à moins que naturellement on ait son consentement, mais là on passe dans une autre partie qui est, de toute façon, on a eu l'accord de l'utilisateur pour justement analyser ce qui se passe. Faut bien garder en tête que la finalité, quand même, c'est là pour améliorer leur expérience. C'est le fait qu'on a développé un système d'information, mais on sait toujours pas ce qui marche ou ce qui marche pas, et le fait de tenir simplement sur son ressenti personnel, sur ce qu'on pense qui est vrai ou pas, ça suffit pas. Il faut justement à un moment donné se mettre à la place de l'utilisateur, savoir ce qu'il est réellement en mesure de faire, et voir qu'en fait on a des gros décalages entre ce que nous on pensait qu'il réalise sur le site et en réalité ce qu'il réalise. Donc ces outils là hein,
donc c'est pour améliorer finalement le parcours de la personne qui l'utilise.
Exactement.
Je vais juste préciser que donc RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui a été qui date de 2018, je crois, ou 2019, et la CNIL, bon, c'est la Commission nationale informatique et liberté, bien connue, à qui il manque, on va le préciser encore une fois, beaucoup de moyens humains pour faire appliquer les règles, je me le permets de le dire. Alors, on va revenir évidemment sur marketing, sur les raisons de l'analyse d'audience, Renan, mais Alexandre Bulté, donc toi tu es directeur technique d'Etalab. Alors, finalement, pourquoi Etalab a choisi de faire de l'analyse d'audience de site web, et de quel site web d'ailleurs vous faites l'analyse d'audience?
Alors, le projet, quelque part, dont on parle, c'est stats.data.gouv.fr, donc pareil, on mettra l'URL en référence, ce sera plus simple. C'est en fait au départ, en 2013, je crois, donc au lancement de data.gouv.fr tel qu'on le connaît aujourd'hui, en gros, c'est-à-dire une plateforme ouverte, participative, avec pas mal de fonctionnalités de type social, on veut savoir, comme le disait Renan, ce qui marche, ce qui marche pas, où vont les gens, que font-ils, que se passe-t-il. Et à ce moment-là, on monte cette instance de stats.data.gouv.fr pour commencer à recueillir quelques métriques sur ce qui se passe sur le site. Et il y a eu une espèce de comment dire, une espèce de une mayonnaise qui a pris à la Dinum, notamment avec nos cousins de beta.gouv.fr, l'incubateur des startups d'Eta, qui ont trouvé cet outil très pratique, l'installation qu'on en avait faite très pratique aussi, et aujourd'hui on en est à plus d'une centaine de sites qui sont, j'ai même noté combien, 108, voilà,
un peu plus. 108 sites institutionnels.
Ouais, 108 sites institutionnels qui sont traqués sur cette instance, et donc on mutualise en fait les efforts de d'hébergement, de maintenance, de backup, de ce qu'on veut, de surveillance, de monitoring, de cette instance, au-delà de, à, pour plein de d'usages différents. Je pense qu'on est une des plus grosses, alors Ronan tu sais peut-être mieux quoi, mais à mon avis on est une des plus grosses instances Matomo ever. En tout cas elle est assez costaud, mais voilà, pour répondre à la question initiale, oui, c'était, comme Ronan le disait, savoir un petit peu ce qui se passe sur le site, et aujourd'hui ça nous sert même de référentiel de par exemple de combien de ce jeu de données a été téléchargé, combien de fois il a été visité. C'est comme ça qu'on connaît les jeux de données les plus populaires, c'est comme ça qu'on connaît les attentes des usagers et les usages que peuvent faire les réutilisateurs des données ouvertes qui sont sur data.gouv.fr. Donc c'est plein de points d'éclairage pour nous qui sont hyper intéressants à la fois pour le site web en lui-même, mais aussi pour les politiques publiques, parce que si on se rend compte que, je sais pas, le jeu de données de telle administration est hyper visité, peut-être nous dire, ah bah tiens, cette administration-là, on va essayer de travailler un peu plus en profondeur avec elle, parce que visiblement ces données intéressent beaucoup de gens, donc il y a peut-être d'autres choses à ouvrir, peut-être d'autres trucs dans les tiroirs qu'on peut sortir, et ça nous aide beaucoup pour ça.
D'accord. Alors j'ai une question justement là-dessus, sur cette visibilité et transparence de l'action publique. Ce qui m'a étonné, étonné entre guillemets, mais c'est que le site est accessible publiquement.
Tout à fait.
Pourquoi donc avoir fait ce choix? Parce que je suppose que c'est volontaire.
Alors c'est volontaire, c'est même... Enfin je sais pas, est-ce qu'il y a un truc au-dessus de volontaire, mais c'est...
c'est assumé.
Voilà, c'est assumé, c'est encouragé.
C'est encouragé.
Tous les sites qui sont hébergés sur stats.data.gouv.fr ne sont pas forcément publics. Enfin, leur fréquentation n'est pas forcément publique. En revanche, nous, c'est quelque chose qu'on encourage parce qu'on pense que c'est, enfin, quand je dis nous, c'est l'équipe de DataGouv et Talab, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important d'être transparent vis-à-vis de nos usagers qui sont le citoyen français qui paye des impôts, qui l'État fait des choses quelle utilité ont ces choses, comment les gens s'en servent. On pense que c'est vraiment intéressant. En plus, notre métier de base, on va dire, c'est l'open data, donc les données ouvertes. Quelque part, stats.data.gouv.fr, ce sont des données ouvertes qui sont mises à la disposition du public. C'est peut-être aujourd'hui notre jeu de données le plus riche. C'est peut-être pas le plus exploité, mais en tout cas c'est le plus riche, parce qu'on a mine de rien des données qui remontent jusqu'à 2013 sur les fréquentations de data.gouv.fr. Et cette transparence des données et des impacts des différents produits, des différents sites qui peuvent être construits, on trouve ça vertueux de pousser, entre guillemets, hein, je ne veux pas dire qu'on pousse les gens à ouvrir leurs données, mais en tout cas on les incite à les rendre publics. Et c'est quelque chose, encore une fois, chez nos cousins de beta.gouv.fr, les startups d'État, qui correspond aussi assez bien à leur philosophie justement de produits par l'impact, quoi, de par l'impact avec une certaine transparence dans le
et une évaluation par process. Justement ce que tu disais tout à l'heure,
et une évaluation permanente, voilà. Je sais, par exemple dans le manifeste beta.gouv.fr, il y a on a l'obligation d'avoir une page / stats public avec quel est l'impact de mon produit, et ça peut s'appuyer sur un Matomo ou pas, hein, mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment dans l'ADN des startups d'État.
On reviendra tout à l'heure sur la raison du choix de Matomo. Là, pour l'instant, on reste sur la partie générale de la question d'analyse d'audience. Toi, comme je dis en introduction, Ronan, tu es donc consultant et formateur Matomo. Tu as dit qu'à peu près 70% de ton temps, tu travailles là-dessus. Donc, quel type de clients tu as et pourquoi finalement ils viennent te voir? Est-ce qu'ils ont tous la même problématique ou est-ce que tu as des profils différents?
Ah, très bonne question. Je vais pas dire que j'ai un petit peu de tout. Je dirais que principalement les clients avec qui je vais travailler, ça va être vraiment être les grandes administrations, les grands comptes. Donc ça va être des régions par exemple, ça peut être des villes, ça va être aussi des institutions européennes, ça va être aussi des très grandes entreprises, mais pas forcément liées à l'e-commerce. En fait, faut imaginer que Matomo, contrairement à d'autres solutions bien connues que tu évoqueras peut-être un petit peu plus tard, il y a en fait tout un univers parce que c'est un logiciel libre qui est ouvert pour Matomo, qui est notamment la partie intranet. C'est en gros celle qu'on voit, on peut jamais voir de l'extérieur. Et en fait, ça c'est un marché qui est énorme du coup pour Matomo. Donc c'est souvent en fait des entreprises pharmaceutiques par exemple qui viennent me voir, qui ont des intranets, qui ont développé des applications qui coûtent des fortunes, et en fait ne savent toujours pas si au final les personnes, les utilisateurs, qui sont pas du coup le grand public, qui sont vraiment leurs clients à eux, utilisent l'application qu'ils ont développé.
D'accord, donc c'est utilisé, comme tu le disais un peu en introduction, pour améliorer l'expérience des personnes qui utilisent le produit, et pas pour les surveiller simplement, mais pour effectivement correspondre à ce que le produit aux attentes, pour corriger éventuellement des parcours de visite par exemple qui seraient bizarres, parce qu'on sait très bien qu'on prévoit une application, une interface, et que les gens font souvent autre chose. C'est dans ce sens-là que c'est utilisé en interne dans des structures. Donc.
Ouais, alors pour dédiaboliser un petit peu tout ça, pour vous donner une idée des clients que j'ai eu, ou en tout cas des prospects au téléphone qui veulent vraiment faire du tracking très très intrusif, je crois que j'en j'en ai eu qu'un seul dans ma vie, où vraiment la personne elle voulait le numéro de sécurité sociale, il voulait en plus du coup le croiser avec l'âge, le genre de la personne, enfin bref, tout un paquet de données. C'était d'ailleurs du côté américain, le client était américain, mais en gros j'ai jamais eu, en tout cas moi, de client où vraiment on veut savoir si c'est Pierre-Paul qui s'est connecté, à quelle heure il s'est connecté, pourquoi il l'a fait, enfin je veux dire, ça a toujours été encadré, mais même il y a des années de ça, hein. Je me rappelle à un moment donné j'avais eu un client où c'était sur le site il y a des pages qui sont liées au syndicat par exemple, ce qu'on appelle un plan de marquage, donc en gros l'implémentation du code de Matomo, surtout là tu traques pas ça quoi, là, parce que en gros ça c'est une zone qui est un petit peu touchy, j'ai envie de dire. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, principalement, moi, ça va être les très grandes organisations, les très grands comptes que je vais former. Et après, d'ailleurs, en effet, je vais avoir des clients un petit peu plus modestes. Donc ça peut être, je vais pas dire monsieur et madame tout le monde. Enfin, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment des personnes que je vais pas vraiment considérer comme des clients. Je vais les aider comme ça sur mon temps libre, etc. Principalement, j'ai plus travaillé sur les très grands. Et puis, vu que maintenant, il y a beaucoup de demandes, je travaille aussi pas mal avec des sous-traitants. En fait, mon rôle, c'est surtout d'arriver à former, et notamment à l'étranger, des agences ou des indépendants qui sont capables, eux, de pouvoir aussi former et fournir de la prestation de services sur Matomo à l'étranger.
D'accord. Donc, quand on reparlera tout à l'heure en détail de Matomo, on voit déjà quand même que Matomo est un outil qui est très largement utilisé et sur lequel, en plus, il y a des gens qui en vivent par du service, par de la formation et autres, par du consulting. On reviendra en détail là-dessus. Par contre, je reviens juste sur une expression que tu as employée qui est le plan de marquage. Tu l'as un petit peu expliqué aussi. Donc, je suppose que le plan de marquage, en fait, c'est l'idée de lister les besoins de collecte des données avant de réfléchir à installer et configurer un outil. Est-ce
ouais.
que c'est ça ?
Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes, dans leur tête, c'est un logiciel dans l'analyse d'audience, c'est juste un logiciel que j'installe. Je déploie du coup le code pour mesurer ce qui se passe sur le site et ça s'arrête là. Non, en fait, il faut imaginer qu'un logiciel d'audience, il y a une partie de développement exactement comme pour la création d'un site web. Où c'est, en fait, il faut implémenter des fonctionnalités qui permettent de pouvoir collecter des données dont tu as besoin. En fait, par défaut, Matomo ou tout autre logiciel d'analyse d'audience, ils sont pas devins, en fait. Ils savent pas si ton site, c'est un réseau social, ils savent pas si ton site, c'est un site marchand, ils savent pas si c'est un petit site vitrine, un petit blog, etc. Donc, en fait, tout ça, il faut lui expliquer, et ça place par, moi, ce que j'appelle un plan de marquage, mais en réalité, c'est un cahier des charges qui définit, au final, ce dont tu as besoin en termes de collecte de données, pour d'ailleurs analyser si les scénarios que tu imaginais, par exemple les personnes n'utilisent pas le menu déroulant, en fait par défaut l'utilisation d'un menu déroulant n'est pas mesurée par des solutions d'analyse d'audience, donc il faut en effet que tu rajoutes ces petits bouts de code, et ces petits bouts de code là, c'est ce que tu définis dans cette fameuse documentation qu'on appelle nous analystes un plan de marquage.
D'accord. Alors justement, côté Etalab, Alexandre Bulté, est-ce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'une centaine de sites qui étaient utilisés, enfin sur lesquels Matomo était installé. Est-ce que tu as eu aussi ce genre de mise en place, c'est-à-dire des demandes un peu spécifiques par rapport à tel ou tel site, ou est-ce que finalement c'est une installation générique entre guillemets?
Alors non, nous ce qu'on propose à travers Etalab et data.gouv.fr, c'est vraiment l'infrastructure, on va dire. On n'est pas du tout comme Ronan des experts de l'analytics, donc déjà on n'en a pas la capacité, de toute façon on n'a pas le temps, notre cœur de métier ça reste quand même d'opérer notamment en data.gouv.fr. Non, nous on se borne à fournir l'infrastructure la plus saine possible, on va dire, notamment certains réglages par défaut qui sont plutôt respectueux de la vie privée, parce qu'on pense que par défaut il vaut mieux être respectueux de la vie privée, et ensuite après à chaque start-up, à chaque site, de mettre en place son plan de marquage, son besoin de tracking plus ou moins évolué, voilà. Mais nous on n'intervient pas sur la partie métier.
D'accord. Dernière question avant qu'on aborde le fameux logiciel dont on a évoqué tout à l'heure. Tu as parlé de grands comptes, Ronan. J'ai vu sur le site de Matomo, on l'a même pas cité, le site de Matomo, c'est matomo.org. Et si vous voulez accéder directement sur la version française, c'est fr.matomo.org. J'ai vu qu'il y avait des grandes entreprises qui utilisaient Matomo. Mais je me souviens aussi qu'à un moment, tu m'as dit que tu faisais de la formation bénévole, notamment dans le cadre de WebAssos qu'on a reçu dans l'émission du 11 mai 2021, donc une association qui regroupe des bénévoles experts du web pour venir aux en aide aux associations. Donc ma question c'est, donc je suppose qu'il y a des associations de toute taille, notamment des petites ou autres, qui utilisent Matomo pour leurs besoins d'analyse de sites web. Donc ce type d'association, quelle information elle recherche ? La même que les autres ou est-ce qu'il y a des trucs spécifiques ?
Ouais, c'est à peu près pareil. Donc faut imaginer que oui, il y a aussi beaucoup de demandes. Hein. Quand j'ai fait les ateliers avec WebAssos, faut imaginer, donc c'était une fois par mois, il y avait à peu près chaque fois 5 associations, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que voilà, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un désir du côté des associations de pas simplement mettre à disposition un site web, c'est un site web également qui marche, et aussi d'arriver à rendre vertueux hein, ce cercle qui tourne autour du socle libre. Après, en termes de demandes, bizarrement, en fait, je dois dire que c'est peut-être même plus au sein des associations que j'ai cette notion, on va dire, que je trouve cette notion d'e-commerce. C'est-à-dire que j'ai assez peu, au final, de sites e-commerce qui viennent me voir pur e-commerce, hein, qui viennent me voir pour justement du Matomo. En revanche, des associations qui, elles, sont intéressées pour mesurer ce qui se passe sur toute la partie à faire un don. Et ben, ça, c'est justement là où je vais les avoir. Donc, ouais, je dirais même que les associations sont plus intéressées justement pour cette partie e-commerce. Qu'on va dire que les entreprises classiques que moi j'ai l'habitude d'avoir, mais sinon pour le reste, oui, le besoin est le même. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est que leurs besoins en termes de, enfin les questions qu'ils me posent, surtout en termes d'expertise, sont vraiment du même niveau au premier abord. Moi, je m'étais attendu à ce que, ok, à chaque fois qu'une association va venir me voir, ça va être truc classique. Faut juste expliquer ce que c'est que Matomo, même Matomo sur le site et ça s'arrête là. Non, souvent en fait, les associations elles ont déjà des besoins bien pointus. Et en fait, oui, on doit parler en effet de plan de marketing et de nécessité de déployer du code pour pouvoir aller plus loin dans la collecte de données.
Ouais, donc si je comprends bien, l'un des objectifs principaux, c'est comment on s'arrange pour qu'une personne qui arrive sur le site web de l'association finisse par arriver sur la page de don ou d'adhésion et convertisse en faisant un don en adhésion. Je rappelle que l'April est une association, donc on a également cette problématique-là, hein, même si nous... je précise d'ailleurs qu'on utilise Matomo, mais que jusqu'à maintenant, on l'a installé, mais c'est vrai qu'on s'est pas réfléchi à de plans de marquage et autres. Par contre, par curiosité, tout à l'heure, j'étais voir le Matomo de libralire.org, ça me permet de voir les pages populaires, et notamment actuellement une des pages les plus populaires, c'est celle autour du vote électronique, parce qu'évidemment il y a une actualité, il y a encore des gens qui veulent croire que le vote électronique pour les institutions c'est une bonne chose. Donc je vous encourage à aller sur libralire.org, il y a des articles notamment de Chantal Anger, mais c'était un petit peu un hors sujet, mais quand même c'était voilà, c'est ce que j'étais voir tout à l'heure et c'était les pages les plus visitées. Alors quand on parle d'analyse de site web, il y a forcément un nom qui apparaît, hein, c'est pas forcément le seul. D'ailleurs quand on parle d'internet, il y a un nom qui revient assez souvent. Malheureusement, c'est Google, et là en l'occurrence c'est Google Analytics. Je suppose que de très nombreuses personnes, de très nombreux sites utilisent Google Analytics. Alors, pourquoi d'après vous déjà ces gens-là l'utilisent? Et puis deuxième question ensuite, pourquoi ne faudrait-il pas l'utiliser? Quel problème pose Google Analytics? Qui veut commencer?
Je peux commencer. Allez, déjà sur les chiffres, je suis tombé en préparant l'interview sur une étude de WTratex assez intéressante. Pareil, je mettrai le lien. A priori, c'est 85% de part de marché, 84-85% de part de marché Google Analytics sur le marché des trackers d'audience. Et j'ai aussi remarqué que Matomo était dans le top 10, donc ça m'a fait plaisir. Voilà, ils sont très très loin hein, derrière.
Ils sont quoi, 4-5%?
Même pas, je crois 1, virgule quelque chose.
D'accord.
Bref, donc 85% de parts de marché, ça dit déjà des choses, ça dit quasi monopole, ça dit voilà. Après c'est un outil qui marche, c'est un peu le go-to par défaut des gens, ce que je peux comprendre je sais pas si on s'est pas renseigné sur les impacts, si on n'a pas écouté par exemple cette émission qu'on est en train de faire. Là où on va aller par défaut, c'est sur Google Analytics parce que c'est gratuit, parce que ça marche tout seul, parce que on clique. Bon, après on se retrouve quand même dans une interface que moi personnellement je m'en suis jamais vraiment bien sorti.
Tu veux dire l'interface graphique?
Oui, enfin je trouve que l'ergonomie de Google Analytics est particulièrement ardue. Mais bref, c'est un peu le choix par défaut et je pense que, enfin à mon avis, ça va pas plus loin que ça dans le choix.
Dans la raison du choix.
Ouais, ouais. Voilà, et après il y a d'autres je vais peut-être laisser Ronan
sur les problèmes, tu veux
élaborer sur les problèmes. C'est pour ça que j'ai commencé hein, c'est pour pouvoir filer la patate chaude.
Voilà, mais c'est un échange hein, donc Ronan, donc sur les Pour quel problème pose Google Analytics finalement ?
Ah, alors je vais peut-être d'abord rebondir sur compléter ce qu'a dit Alexandre. Donc, déjà, je confirme en fait les parts de marché, les sources également qu'on consulte. Hein, donc, ça va être Buildweave, ça va être W3 Tech. Hein. Après, ces parts de marché, elles ont quand même bien changé. Je crois que pour la France, là récemment, quand j'ai regardé, c'était 3%, là où l'année dernière, ça devait être 2%. Donc, faut imaginer qu'1%, c'est quand même phénoménal. Ensuite, ce qu'il faut relativiser par rapport justement à ce top 10, c'est qu'en gros, toutes les solutions qui sont devant sont des solutions qui ne nécessitent pas d'efforts pour la mise en place. Alors ça, c'est énormissime, parce qu'en réalité, si on avait aujourd'hui, j'ai envie de dire, un parrain, ou en tout cas un gros hébergeur qui viendrait se placer, qui dit « Ok, en deux clics, là, tu peux disposer d'une solution d'analyse d'audience », à mon avis, la donne, elle serait complètement différente.
Donc ça, c'est un appel à OVH, à Free, à tout ça, quoi.
Exactement. En gros, c'est vraiment ça l'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'as avec Google ? T'as une solution qui, tu fais deux clics, ou même t'as déjà ton compte Google, t'as déjà ton bout de code, tu le mets directement sur ton site internet, tu commences à collecter tes données. Là où avec Matomo, en fait, les gens comprennent pas trop, quoi. Tu cliques et t'as un fichier zip. Ok, super, mais je fais quoi avec mon fichier zip ? Ah, mais en fait, faut mettre ça sur un serveur. Ah, mais j'ai pas de serveur. Ah, mais un serveur, ça a un coût. Ah, je savais pas qu'il y avait un coût. Et directement, c'est difficile en effet de pouvoir faire la compétition avec d'autres. À noter d'ailleurs une excellente nouvelle, hein, depuis maintenant un petit peu plus d'un an, pour tous les utilisateurs de WordPress, l'équipe de Matomo a bossé extrêmement dur pour développer un plugin spécifiquement pour WordPress. Tu l'installes en un clic, ça utilise les mêmes bases de données que WordPress, et t'as déjà ton Matomo, quoi. Donc en réalité, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez d'ores et déjà migrer en fait sur Matomo Analytics. Ça va pas vous coûter beaucoup de temps, ça va pas vous coûter d'argent. Il vous suffit simplement d'installer ce plugin là et c'est parti.
Est-ce que c'est le Webpack, Jetpack, c'est ça, ou c'est autre chose?
Ah non, c'est pas le Jetpack. Je crois que ça s'appelle Matomo Ethical Analytics ou quelque chose comme ça. Tu vas dans WordPress, tu cherches le plugin et tu le trouves. Alors attention, parce qu'il y a deux plugins, il y a WP Matomo et il y a un autre plugin, et c'est l'autre plugin justement qu'il faut prendre. De toute façon, c'est plutôt bien indiqué, mais c'est vraiment assez génial, quoi. Ça utilise la même base et c'est l'idéal en fait pour démarrer sur du Matomo sans avoir à passer par l'étape installation.
Et donc rapidement, c'est quoi le problème posé par Google? Je dis rapidement parce que je pense que la plupart des gens en ont conscience, mais autant le rappeler dans le cadre de Google Analytics.
Déjà, tout dépend vraiment de quelle branche on veut prendre, hein, mais je dirais le problème qui me vient surtout à l'esprit, c'est qu'il y en a un, c'est un logiciel propriétaire, et l'autre, c'est un logiciel libre. Pour moi, tout démarre, hein, simplement dans la lecture des conditions générales d'utilisation de Google Analytics, hein. Rien que ça, en réalité, quand moi j'ai des clients qui viennent me voir, c'est parce qu'en gros, ils ont leur service juridique qui a eu la curiosité de lire les conditions générales d'utilisation. À partir de là, de toute façon, Google Analytics, c'est niette. Pour tous ceux qui, en effet, ne les ont pas encore lus, je les invite du coup à les lire, puisque ça dit clairement les choses, hein. C'est qu'en gros, Google, lui, ne prend aucune responsabilité. En gros, s'il se passe quelque chose, vous prenez tout en pleine figure. Vous vous êtes engagé, via ces conditions générales d'utilisation, à protéger Google si jamais quelqu'un les attaquait, à vos propres frais. Si jamais vous utilisiez des services de type Google, type Google AdWords, en fait, c'est cette carte bancaire là qui sera débitée. En fait, tout ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est aussi pareil si jamais vous avez l'erreur de collecter en fait des données personnelles. Clairement, là, vous enfreignez en gros les conditions générales d'utilisation. En gros, vous en prenez plein la figure si jamais il se passe quelque chose. Et puis après, d'ailleurs, se pose plus la question éthique de se dire, mais attends, mon gars. Moi, je viens sur tel site, je viens pour visiter tel site, je viens pour visiter telle entreprise. D'où est-ce que tu prends mes données, c'est-à-dire mon comportement, et que tu veux l'envoyer à un tiers, qui plus est Google, qui lui a déjà tout un paquet de données, qui peut déjà croiser avec un paquet de choses. C'est pour ça que c'est intéressant, ces fameux bandeaux d'acceptation dont on parle très souvent et qu'on a vu fleurir, parce que il est clair et net que tu viens voir telle entreprise ou tu viens voir tel site internet, tu veux que tes données tu t'attends à ce que tes données ne soient collectées que par eux et pas par un tiers. En fait, c'est complètement fou cette histoire d'embarquer des trucs, qu'envoie des données à des tiers, alors que, je veux dire, tu vas voir un de tes amis, tu veux pas en plus que les données, ce que tu dis à ton ami partent du coup un tiers que tu connais pas. En fait, ça a pas de sens. Et avec Matomo, c'est complètement différent, puisque le logiciel est installé sur vos propres serveurs, donc au final c'est le même serveur qui probablement héberge votre site internet, donc il n'y a pas cette ambiguïté de où est-ce que sont parties mes données, quoi.
D'accord. Eh ben justement, on va revenir à Matomo juste après la pause musicale, mais on va continuer notre voyage avec Darren Curtis. Nous allons écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous avons écouté The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion. Juste avant la pause musicale, nous parlions et nous allons continuer de parler de l'analyse de l'audience de sites web et du logiciel libre Matomo avec nos invités Alexandre Bulté, directeur technique d'Etalab, et Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo. Donc juste avant la pause, Ronan disait du mal de Google. Je ne sais pas ce qu'en pensait Alexandre, on va pas lui demander. mais en tout cas, il était question de, en gros, on va sur un site ami, comme tu disais, et puis finalement nos données vont chez Google qui va l'utiliser pour sa pub épure. Le tracing, et je pense que un jour on consacrera toute une émission d'ailleurs sur ces questions de traceurs parce que c'est quand même passionnant. Mais comme le temps passe, on va quand même aller du côté lumineux, on va dire, de l'analyse d'audience avec donc Matomo, logiciel libre d'analyse d'audience que tu connais bien, Ronan, parce que donc tu es formateur, comme je viens de dire. Alexandre Bulté, on rappelle stats.data.gouv.fr. Alors déjà une première question, tu l'as dit tout, très rapidement tout à l'heure, mais alors un cours historique sur d'où vient Matomo.
Alors Matomo a été créé en fait par un étudiant à l'époque, du nom de Mathieu Aubry, qui désormais est franco-néo-zélandais, c'est important de le préciser, donc initialement il est que français, donc il est étudiant à l'INSA de Lyon, et il lance du coup, c'est fin 2006-2007, un logiciel qui s'appelle PHP My Visit. Si vous allez dans un moteur de recherche très connu et que vous tapez PHP My Visit avec un ES à la fin et non pas juste visits en anglais avec le S, vous trouverez du coup les prémices en fait de ce qu'a été Matomo, et c'est assez marrant de voir que ça ressemble beaucoup à un autre logiciel qui s'appelle AWStat, que probablement certains d'entre vous connaissent. Et en fait, ce logiciel là va commencer à avoir une certaine notoriété, et très rapidement il est renommé en Piwik. Donc là on est vraiment aux entours de 2007, et en fait donc ce logiciel va avoir un intérêt de la part de la communauté, va grandir et va commencer à intéresser en fait un fonds d'investissement polonais qui d'ailleurs va en 2000, je crois que c'était en 2013 en fait, proposer la création d'une entité qui va s'appeler Piwik Pro. Alors faut savoir que du coup le logiciel, comme je disais, PHP My Visit, est ensuite renommé en Piwik, et ensuite en 2013 je suis pas sûr à 100% des dates, mais en gros il y a vraiment cette création d'une structure qui s'appelle Piwik Pro, où le but d'ailleurs c'est de fournir des services à destination des professionnels, et à côté d'avoir également la branche du logiciel libre. Et en fait très rapidement on va se rendre compte que argent et logiciel libre, ça fait pas bon ménage, et que du coup très rapidement cette entreprise là va vouloir d'une certaine façon prendre le contrôle également de Piwik, de fermer le code source, et au final de tuer le logiciel. Donc c'est à ce moment-là que justement Mathieu Aubry, le créateur et j'ai envie de dire libriste dans l'âme, va se dire bah non, mais c'est pas cette vision-là moi que je veux du logiciel Piwik, et va décider en fait de dire bah, puisque c'est comme ça, je veux vendre mes parts hein, justement de cette société Piwik Pro. Moi c'est pas ma vision quoi, je suis pas là pour tuer mon logiciel, je vais en faire un bien commun. Et du coup il va partir de son côté, il va décider de lancer sa propre entreprise qui s'appelle InnoCraft, on va dire, qui est l'entreprise privée qui gère aujourd'hui, on va dire, la maintenance, on va dire, du logiciel Matomo. Et étant donné que, bah, naturellement, communiquer sur un logiciel libre qui s'appelle Piwik avec une branche à côté qui s'appelle Piwik Pro, où en fait, cette branche-là développe leur propre version d'un logiciel en analyse d'audience, mais qui du coup est du logiciel propriétaire, ça faisait pas bon ménage en termes de communication. Donc en 2018, ils décident de se renommer et de s'appeler en fait Matomo. Donc c'est vrai que pour la communauté, ça a été un petit peu, j'ai envie de dire, je vais pas dire un traumatisme, en tout cas c'est un petit peu étrange de voir ce changement de nom comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On a changé le code, etc. Non, on n'a pas changé le code en fait, on a juste changé le nom, mais c'était nécessaire marketingement parlant, j'ai envie de dire, pour justement montrer que non, on n'a rien à voir avec cette entreprise là et que le logiciel Matomo reste et restera du coup un logiciel sous licence libre. Et ça, je pense que c'est super important, et c'est ce que j'essaye d'expliquer moi à mes clients, aux personnes qui viennent me voir, comme disent on a un ensemble de logiciels en analyse d'audience qu'on a identifié comme étant soit open source, soit libre, lequel tu nous recommandes? Et c'est là où je dis, mais en fait, c'est surtout le temps qui va vous permettre de te dire lequel est le bon, parce qu'en fait, toutes ces entreprises-là qui vont développer du logiciel à tout moment, en fonction de leur licence, peuvent décider en fait de retourner leur veste, de dire finalement, on fait du propriétaire, et en fait, ton projet, il est mort, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point d'honneur. En tout cas, c'est un des points d'honneur que j'ai, d'une certaine façon, porté le drapeau Matomo. C'est de dire, au moins, je sais que derrière, il y a des valeurs qui sont partagés par la communauté et qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir un bien commun. Quoi.
D'ailleurs, d'accord, on va revenir après sur la partie licence et puis les fonctionnalités, mais j'ai une question donc pour Alexandre Bulté d'Etalab. Est-ce que le choix de Matomo a été pour ces raisons-là? Alors, ou pour des raisons techniques?
Je ne peux parler que par proxy, puisque c'était en 2013 et je suis arrivé en 2017. Okay. Alors, pour la petite anecdote, le développeur historique de data.gouv.fr était dans la même promo que Mathieu Aubry. Donc, il y a peut-être eu des accointances à ce moment-là. Mais de toute façon, pour nous, c'était forcément un outil open source, déjà, parce qu'on croit au logiciel libre par défaut, on va dire. D'ailleurs, data.gouv.fr en lui-même est un logiciel libre qui s'appelle UData. Et il y avait aussi cette volonté très certainement d'auto-héberger. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure en parlant du grand G, c'est important de savoir où sont ces données, surtout dans l'état, enfin pour moi en tout cas, en tant que directeur technique, savoir où sont les données très précisément, c'est extrêmement important, surtout quand il peut s'agir de données potentiellement sensibles et personnelles. Donc le fait de pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout, nous on a un serveur chez un hébergeur bien connu français qu'on
tu peux le citer s'il y a besoin hein, c'est...
qui est OVH et dont on est ravi notre installation qu'on a parfaitement paramétrée dessus et qu'on maîtrise vraiment de bout en bout, on sait exactement où tout est, et je pense que c'est extrêmement intéressant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a continué à investir et à grandir le cercle des invités sur notre instance. C'est parce qu'on pense que c'est vertueux, voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'idée d'avoir un Matomo en deux clics pour que ça prenne. Effectivement, ça pourrait marcher, puisque ça a marché chez nous à la DINUM. C'est parce qu'il y a une instance qui est là, on crée un compte en deux secondes, un site en deux secondes, et paf, la start-up qui est en train de se lancer, qui a même pas encore de développeurs peut-être, peut déjà avoir des statistiques de consultation sur sa landing page ou autre. Donc ouais, c'est choix de souveraineté des données, de logiciels libres sont de toute façon critiques chez nous. Et donc voilà. Et je pense qu'en 2013, il n'y avait pas énormément d'alternatives possibles. Ouais. Enfin, en tout cas, pas très utilisables, on va dire, pour me souvenir de ce temps-là. Alors peut-être qu'on parlera après d'autres trucs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres alternatives qui sont intéressantes aussi. Mais bref, en 2013, c'était le bon choix à faire, quoi. Et ça reste, vu comment on a mis à l'échelle le truc, on peut dire qu'on s'est pas trompé.
D'accord. Je précise d'ailleurs que Matomo fait partie du CIL, hein, du socle interministériel du logiciel libre. Il y a plein d'autres logiciels libres qui se trouvent dessus. Hein. Le site, c'est cil.etalab.gouv.fr, mais on mettra évidemment les références sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. On va parler un petit peu des fonctionnalités comme de Matomo, même si on a un peu parlé indirectement parce qu'on a parlé d'audience tout à l'heure. Mais juste assez rapidement, peut-être sur le modèle économique et le fonctionnement pour expliquer donc aux gens. Donc aujourd'hui, Matomo est un logiciel libre dont les principaux développements sont assurés par une entreprise donc, qui est en grande partie basée en Nouvelle-Zélande, tu m'as dit.
C'est ça.
C'est ça. Ils sont combien de personnes, à peu près ? T'as une idée ?
Je dirais qu'ils doivent être entre 12 et 15 personnes.
D'accord, donc quand même 12 et 15 personnes. Et donc, leur modèle économique à cette entreprise, c'est quoi ? C'est de vendre du service, de rajouter des fonctionnalités ? C'est quoi le modèle économique pour continuer à... Enfin, c'est quoi leur modèle économique ?
Alors, il y a vraiment trois offres distinctes. La première et la plus évidente, c'est celle de l'hébergement. Donc, en gros, tu veux en effet un Matomo qui est directement exploitable en quelques clics. Vas-y, clique ici. En effet, tu as un compte qui est disponible. Après, cette partie-là, j'ai envie de dire, c'est pas cette partie-là qui va intéresser le grand public parce que tu es sur des tarifs qui sont celles d'une start-up qui a besoin de faire vivre ses 12 employés. Donc, je crois qu'on doit être... si on n'est pas de sa base de 29$ par mois ou quelque chose comme ça, ce qui veut dire que voilà, j'ai un petit site, est-ce que tu as envie du coup de passer d'un gratuit, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment du gratuit chez le Granger, à 30€ directement, tu réfléchis quoi. Généralement, à mon avis, tu es plus intéressé pour faire de l'auto-hébergement si tu es à la recherche du coup d'une solution à moindre coût. Et donc ça, c'est une chose, ça c'est la partie cloud. Ensuite viennent se rajouter ce qu'on appelle les fonctionnalités premium. Donc là, c'est-à-dire que vous avez en fait tout un ensemble de fonctionnalités dans Matomo, et en plus de ça, ils ont développé des plugins qui eux sont payants, donc ce sont des licences qu'on paye à l'année, qui te permettent du coup d'avoir des fonctionnalités qui te permettent de transformer ton Matomo. Généralement, ça vient transformer aussi bien au niveau du plan de marquage, c'est-à-dire pour t'éviter de faire des trucs très techniques, que pour venir te donner des fonctionnalités que n'ont pas les autres acteurs du marché. Exemple, Google. Donc typiquement, je pense à la heatmap et à l'enregistrement de session. Bon, en gros, c'est quoi ? C'est ce qui te permet de faire des vidéos de ce que les utilisateurs ont fait sur ton site. Et le troisième modèle d'affaires qu'ils ont, c'est l'offre de support, qui est là plus basée sur des bugs. Donc en gros, tu rencontres un problème avec Matomo, tu as besoin d'aide, de support tout de suite, et là, ils te répondent directement par email.
D'accord, donc on comprend bien le modèle économique, et c'est important de rappeler que voilà, il y a logiciel libre, c'est pas ça peut être compatible avec des modèles économiques. Je rappelle que vous pouvez participer à la discussion en posant des questions ou des réactions sur le salon web de la radio, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. J'ai bien vu que la question de Tiken qui vient d'arriver dans le studio, qui assiste aujourd'hui à l'émission, je la relayerai tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure en introduction de ce que c'est que l'analyse d'audience. Renan, tu as bien expliqué un petit peu les différents besoins. Matomo, quelles sont les principales fonctionnalités et quelles sont peut-être les plus intéressantes aujourd'hui par rapport donc à ce qu'on a dit en introduction sur l'analyse d'audience?
Ouais, alors c'est vrai que...
Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités.
Ouais, non, mais c'est simplement qu'au début, les personnes qui démarrent dans l'analyse d'audience, comme je disais tout à l'heure, elles pensent que simplement on installe le logiciel et ça s'arrête là. En réalité, tu peux, si on prend simplement l'exemple d'un site internet, en fait, tu peux collecter tout ce qui se passe tant que ça se passe sur ton site internet. Si ça sort de ton site internet, je prends typiquement le cas d'un iframe, donc en gros un site internet embarqué dans un autre site internet, là ça devient plus délicat parce qu'en fait ce qui se passe dans l'iframe, donc on va dire une vidéo que t'as mis, là en fait vu que l'interaction elle a pas lieu là sur ton site internet, t'es ensuite obligé de fonctionner plus avec de l'import ou des intégrations via ce qu'on appelle des API, mais en fait tant que ça se passe sur ton site internet, tu peux tout collecter. Donc, je vais prendre un exemple qui est tout simple. Tu as une page qui a été rédigée par, je sais pas moi par exemple, Étienne. Aujourd'hui Matomo, qu'est-ce qu'il va collecter ? Il va te collecter en fait le titre de la page, l'URL de la page, l'heure à laquelle justement la page a été chargée par l'utilisateur, mais il va pas te récupérer l'information que l'auteur de cette page, c'est Étienne. Mais en fait, si cette information là elle est présente dans ta page, tu peux venir justement la collecter avec Matomo et l'envoyer pour qu'à la fin du mois tu saches par exemple quel auteur est le plus lu en fait au sein de ton site, et ça t'évite de faire tout un retravail de la donnée après coup qui est de flécher, de dire en fait telle page qui c'est qui l'avait écrit, etc. Et de la même manière, tu peux lui remonter les dates de publication, tu peux lui remonter toutes les interactions qu'il y a eu avec la page. Est-ce que la personne a scrollé, est-ce qu'elle a surligné une phrase en particulier,
est-ce qu'elle ça va à ce niveau de détail
en fait. le niveau de détail, c'est tu peux tout collecter, tout ce que tu veux, tant que ça se passe vraiment sur ton site. Tant que ça se passe sur ton site. Dès que ça se passe en dehors de ton site, par exemple, le fait que tu es face à ton écran et qu'il y aurait une photo qui serait prise de toi, bah non, ça tu peux pas le, tu peux pas le faire parce que ça se passe pas sur ton site. Mais tant que ça se passe sur ton site en tant que tel, tu peux le collecter. Et ça, c'est vraiment un cap psychologique en fait qui est franchi quand je suis en formation et que je leur explique, bah regarde en fait, aujourd'hui tu utilises 1% en fait de la solution. Voilà tout ce que tu peux faire avec 99% restant, et c'est là où en fait il y a une illumination et ils se disent ok, en fait c'est un vrai métier que vous faites. Bah ouais, c'est pas juste installer un logiciel quoi.
Alexandre, quoi, tu voulais compléter?
Précisons que tout ça est possible mais n'est ni obligatoire ni automatique. On peut tout à fait installer un Matomo qui par défaut collecte le moins de choses possible, et que ça peut être aussi être intéressant. Il y a différentes approches, et je pense que c'est les besoins du client et le cadre dans lequel il opère qui dicte la manière dont il veut configurer son instance.
D'ailleurs, précisons, même si on ne va pas rentrer dans les détails, que Matomo, avec une configuration assez simple, permet d'être compatible avec les recommandations de la CNIL, et donc compatible règlement général des protections des données. Sauf si vous voulez rentrer rapidement, mais
on peut même aller jusqu'à a priori se passer de la fameuse bannière cookie en réfléchissant et en mettant son service juridique dans la boucle, parce que c'est un travail aussi.
Surtout à l'étalage, il faut toujours mettre le service juridique dans la boucle.
Non, c'est parce qu'ils sont excellents, c'est pour ça. on peut pas se passer de, c'est pas parce qu'on est obligé. Mais c'est possible, voilà, c'est une possibilité.
Alors juste
vas-y,
pour,
et après je reprends les questions du site.
Juste pour compléter sur cette partie. Oui. Donc, qu'on traite là autour du RGPD, c'est vrai que Matomo par défaut est configuré pour justement être exempté de consentement, mais il ne faut pas oublier que le RGPD c'est aussi deux droits aussi qui sont très importants, qui sont le droit à l'information et le droit à l'opposition. C'est-à-dire que même si vous collectez des données qui sont anonymes sur votre utilisateur, ce qui est le cas par défaut avec Matomo, vous devez quand même de lui fournir une information. Donc après, libre à vous de le mettre soit dans un bandeau d'information, soit sur la page de confidentialité des données. Là-dessus, la CNIL est plutôt claire. Et également le droit d'opposition, qui est que même si tu collectes des données anonymisées sur l'utilisateur doit quand même avoir le droit de pouvoir s'opposer à cette collecte, même si elle est anonyme. Et ça, c'est... Certes, Matomo, il vous est donné comme ça... configuré, mais il y a quand même ces deux actions supplémentaires que vous devez mettre en place sur le site.
D'accord.
Ça c'est important. Ça va pas se faire dans le logiciel Matomo, ça se fait sur votre site.
Tout à fait.
Alors juste avant de poursuivre, je prends quand même les deux questions sur le salon web, puisque c'est là pour ça aussi. Alors donc Tiken qui nous demande est-ce que ça n'existe pas déjà du Matomo on-premise, je pense qu'il a voulu dire, donc sur site, je crois que c'est ça la traduction, qui veut répondre rapidement? Sachant que Tiken est derrière vous, en
oui,
fait.
Oui, bah, on-premise, oui, c'est quand on l'installe chez soi, pour moi. Et oui. Du coup, bah oui, ça existe, parce qu'il y en a chez nous, par exemple.
Ouais, okay. C'est vrai que ce mot, quand on vient de l'univers francophone et qu'on débarque sur le site de Matomo et qu'il propose ces deux options, soit on vous offre du cloud, soit c'est du on-premise, c'est vrai que c'est un petit peu... Au début, j'avais un petit peu du mal avec ce mot, et ça veut dire qu'en effet, oui, c'est directement hébergé sur le serveur de ton choix. Donc oui, tout à fait, c'est comme tout logiciel libre, tu peux le prendre et le mettre où tu veux. Ouais.
Alors effectivement, je suis sur le site de Matomo, la formulation est un peu particulière, je sais pas sur la version française que ça donne, mais en tout cas, on peut l'installer, c'est l'intérêt d'ailleurs, Etalab... l'a fait. Je regarde l'heure qui passe pour savoir où on en est. Côté Etalab, tout à l'heure, tiens, Alexandre, tu disais qu'il y avait aujourd'hui d'autres alternatives potentielles éventuellement. Alors très rapidement, est-ce qu'il y a des concurrents entre guillemets dans le monde du libre, hein, je parle bien,
ouais,
à Matomo?
Ouais, moi il y en a deux qu'on n'utilise pas en prod, on va dire, mais en production en ce moment, mais que je regarde, qui s'appelle Shynet, qui est un jeu de mots assez intelligent sur Skynet. Bref, les fans de Terminator comprendront.
Oui.
Et plausible.io, qui sont deux alternatives assez intéressantes. Alors, on n'est pas du tout dans le même niveau de fonctionnalité que Matomo. On n'est pas sur la profondeur et les capacités de cet outil-là. En revanche, on est sur des choses qui sont par défaut respectueux de la vie privée, peut-être plus simples à prendre en main pour quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que ça arrive. Hein. Comme le disait Ronan, c'est un métier. Et, tout le monde n'a pas ces capacités là. Donc c'est des trucs à regarder si vous savez, je sais pas, bidouiller, installer un petit serveur, peut-être regarder Shinet et Plausible qui sont des alternatives assez intéressantes, je trouve, et qui font faut lire les pages de comment dire, d'éthique de manifeste qui sont sur notamment sur Plausible qui moi me plaisent bien qui sont assez intéressantes, je trouve. Et puis on parle de tracking sans cookies, on parle de tracking sans JS, on parle de choses assez intéressantes pour justement s'efforcer de collecter le moins possible, parce que moi c'est ce que j'ai retenu finalement. Oui. De tout ce que la CNIL a pu dire. Alors encore une fois, je ne suis pas un avocat, mais moi j'ai retenu un truc, c'est ne collecter que ce qui est nécessaire, voilà. Et tout ce que vous collectez, il faut qu'il y ait nécessité pour que vous le collectiez. Donc partir d'un truc qui collecte pas grand chose, ça peut être une bonne idée dans ce cadre-là.
Alors, autre question avec réponse rapide, je suppose, pour Ronan. Donc c'est Olicat qui demande, on fait comment pour avoir une formation?
Alors il y a un petit peu tout. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est vraiment d'avoir une formation en français. Faut imaginer que quand j'ai travaillé chez Matomo, moi ce qui m'a bluffé, c'était que il y avait pas d'informations qui étaient cachées, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, eux, leur site internet, c'est vraiment tout. Donc ils y mettent toute leur doc. Elle est extrêmement bien faite. C'est juste que le site il est énorme. Mais en fait, si tu vas sur Matomo, que tu vas cliquer sur ressources ou quelque chose comme ça ou aide, là tu as différentes briques de formation, j'ai envie de dire. T'en as un qui s'appelle en gros les guides, c'est tout ce qui est dans le répertoire slash doc, et en fait c'est pour chaque fonctionnalité qui sort, ils vont développer, expliquer comment fonctionne cette fonctionnalité. Tu as une autre où malheureusement tu me retrouves, donc après faut supporter mon accent franglais, j'ai envie de dire. Donc des vidéos de formation qui justement te forment gratuitement à Matomo. Sinon j'ai eu l'occasion de développer deux beaux projets, donc un avec l'association Zest de Savoir que je salue. J'ai développé un MOOC en français, alors qui est pas très à jour.
Un MOOC, c'est une formation en ligne.
Une formation en ligne. Et sinon j'ai un autre projet que j'aime énormément, qui me tient à cœur, que lui j'ai plus développé dans un cadre universitaire, qui s'appelle la Floss Marketing School.
Donc voilà. Floss, c'est pour free, libre, un open source software. Donc,
exactement. L'idée, c'est justement de libérer en fait les cours que je fais à la faculté pour tout le monde. Et dans cette école en ligne, donc qui est sur une brique Moodle, tu as du coup tout un cours qui s'appelle Digital Analytics, dans lequel voilà, je forme en anglais. Je précise que toutes les ressources là sont gratuites, accessibles à tous et sous licence d'ailleurs Creative Commons. Donc en gros, si vous voulez créer vos propres formation en interne ou même à l'externe, je m'en fiche, vous allez sur le site, vous récupérez tout ce que vous voulez et vous vous faites plaisir. Voilà, après ça va être du temps à passer. Sinon, bah après, si c'est plus avoir un accompagnement en entreprise, ce genre de choses, bah là naturellement vous avez des prestataires dont moi inclus. Mais si vraiment on est plus sur un mode auto-formation, il y a vraiment ces trois ressources que je vous conseille, donc matomo.org, Zest de Savoir et également la Floss Marketing School.
Alors, on mettra évidemment toutes les références sur les pages consacrées à l'émission, donc sur causecommune.fm et sur april.org. Alors, le temps passe super vite, vous allez avoir droit à la dernière question bientôt. J'ai juste précisé que tout à l'heure, quand on parlait de on-premise en anglais, en fait, sur le site en français de Matomo, c'est auto-hébergé, ce qui est beaucoup plus clair. Donc, allez sur fr.matomo.org plutôt. Alors, comme je vous l'avais dit, le temps passe super vite, on pourrait faire une deuxième émission, peut-être qu'on en fera une deuxième d'ailleurs sur Matomo. La dernière question, ou après, vous pourrez rajouter évidemment ce que vous voulez, en deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir pour vous par rapport à l'analyse de site web et Matomo? On va commencer par Alexandre Bulté d'Etalab.
Ce que je disais tout à l'heure, transparence, souveraineté, auto-hébergement, je pense que c'est les vraies forces racines de cette solution. Et après on peut aller très loin dans l'analyse. Il y a tout un tas de fonctionnalités incroyables qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Bien faire attention à ce qu'on collecte, les données qu'on collecte, est-ce qu'on les fait dans un cadre qui est légal, est-ce qu'on a correctement informé ses utilisateurs. Enfin bon, ça, pour le coup, il y a un module dans Matomo qui aide à faire une checklist de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les informations que je donnais. Donc bien faire attention à ça et utiliser quelque chose qui est qui est bien dimensionné par rapport à ses besoins, parce que peut-être que pour traquer 4 ou 5 visites par mois, on n'a pas besoin de monter un Matomo quelque part non plus. Voilà, mais donc continuer évidemment à regarder les solutions libres disponibles, il y a plein d'approches différentes et c'est un monde riche et passionnant, et c'est pour ça qu'on l'aime.
Renaud Charbonneau ?
Ouais, moi c'est plus le formateur qui va parler, mais je dirais que si vous voulez découvrir cet univers qui est l'analyse d'audience, en fait tout démarre par le téléchargement de Matomo et son installation, et c'est à partir de là où vous n'avez pas besoin d'être expert de Matomo, de l'analyse d'audience, mais que vous allez comprendre en gros qu'est-ce que c'est que la collecte de données et ce que potentiellement derrière des acteurs propriétaires peuvent collecter. Donc le fait de voir une base de données par ses propres yeux, de voir directement qu'est-ce qu'un navigateur va envoyer en termes de données, navigateur web, lorsqu'il se connecte à un serveur web, ça c'est vraiment le palier que je conseille à chaque fois à tous mes toutes les personnes que je fais, en fait le palier psychologique qui te permet de comprendre, ah mais en fait tout ça je le savais pas, en fait tout ça avec ces solutions en quelques clics je les avais jamais vues, tandis que là en fait le fait de l'installer par moi-même, bah, je suis en train de découvrir réellement ce que c'est qu'une solution d'analyse d'audience, jusqu'où on peut aller, comment ça fonctionne, pourquoi parfois on peut avoir des temps de chargement qui sont un petit peu plus longs. Ah bah ouais, mais c'est parce que c'est mon propre serveur, donc il y a des petits soucis en termes de performance. Ah ouais, mais c'est quoi un serveur? Ah ok, donc c'est du matériel, donc faut que le matériel il soit bon. Ah mais on parle de quoi? On parle de vraies machines physiques, etc. Enfin bref, c'est vraiment tout cet univers-là qui s'ouvre à vous, et c'est là où vous faites un bond de géant en fait en termes de formation et d'éducation, parce que vous découvrez un monde que vous connaissiez pas en fait.
Bah écoutez, j'espère en tout cas, auditeurs et auditrices, que c'était une découverte, une première introduction au monde de l'analyse d'audience de sites web et de Matomo. Tu voulais rajouter une chose?
Oui, je voulais juste rajouter une petite chose. Là, actuellement, on cherche à lancer le premier Matomo Camp, donc premier événement dédié du coup à Matomo. Et on a actuellement donc un site matomocamp.org sur lequel vous êtes invité justement à répondre à un sondage en ligne pour justement définir les attentes que vous avez par rapport à cet événement, qu'on va pouvoir d'ailleurs lancer lorsqu'on aura suffisamment de répondants. Donc j'espère avoir au moins un millier de réponses, et j'en profite également pour saluer un ami qui m'est très cher et qui m'a beaucoup aidé dans toute mon éducation là sur Matomo, qui s'appelle Lucas Winkler. J'avais promis de le mentionner à la radio. Voilà.
Eh ben écoute, c'est fait. En tout cas, un grand merci donc Alexandre Bulté, directeur technique d'Etalab, hein, etalab.gouv.fr, Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, ronan-chardonneau.fr, le site web de Matomo, donc fr.matomo.org. On a cité plein de choses, on va mettre à jour les pages de l'émission. En tout cas, Étienne qui est en régie a déjà commencé, donc vous irez sur april.org ou causecommune.fm, vous aurez une page avec tous les liens. Donc je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. C'était un grand plaisir de vous avoir en studio, même si on est évidemment masqué, et avec des beaux t-shirts pour certains.
Plaisir partagé, merci beaucoup.
Belle
merci.
Fin de journée.
Nous venons d'écouter une rediffusion du sujet principal de notre émission numéro 111 du 22 juin 2022, qui portait donc sur l'analyse d'audience de sites web et sur le logiciel libre Matomo. Donc Matomo qui est une bonne alternative à Google Analytics, hein, qui a été mentionné pendant l'échange, et dont certaines fonctionnalités viennent d'être déclarées contraires au règlement général sur la protection des données par la CNIL, du fait des transferts de données vers les États-Unis. Un sujet à réécouter en podcast et à relire en transcription. Je vous propose à présent de faire une pause musicale. Nous allons donc écouter Above par Sapajou. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Above par Sapajou, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April. Passons à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec la chronique « À cœur veillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi qui nous proposent aujourd'hui la deuxième partie de leur chronique sur le sujet des moteurs de recherche. La première étant d'ores et déjà disponible en podcast, il s'agit de Libre à vous 125, donc vous pouvez retrouver sur libreavoue.org/125, tout simplement. Le sujet a été enregistré début janvier, je vous laisse donc avec Laurent et Laurette, on se retrouve dans environ 10 minutes, toujours sur Cause Commune, la voix des possibles.
Hello ma puce au silicium, je crois que la dernière fois que je t'avais obligé à enregistrer un podcast avec moi, nous avions parlé de moteurs de recherche, mais nous n'avions pas tout à fait fini avec eux, tu me confirmes ?
Oh bah oui, je te confirme, tu m'avais obligé.
Bon, parfait. Donc on va continuer, mais avant, je voulais te remercier de ne pas m'avoir offert une chiffonnette Apple pour Noël.
Bah y'a pas de quoi, ça me fait plaisir.
Tu sais qu'à surface équivalente, cette chiffonnette vaut plus cher qu'un carré Hermès ?
Oh, que je te remercie de ne pas m'avoir offert non plus à Noël !
Bah, y'a pas de quoi, ça me fait plaisir. Mais pour préciser, par rapport à Hermès, leur carré fait 45 cm de côté, ce qui nous y fait 2025 cm². Vendu entier à 180€, ça nous fait donc le centimètre carré au prix de 0,088€ et des bananes.
Et pour la chiffonnette, laisse-moi faire le calcul. 25€ pour un carré de 16 cm de côté, ça nous y fait 0,097€ et des noyaux de coquillettes. Il faut donc 7,91 chiffonnettes pour faire un carré de 45 cm. Sur 45 cm. On va arrondir à 8 car ça va faire sale sinon quand on va les coudre ensemble. Ça nous fait donc un carré Hermès chiffonnette à 200€. La chiffonnette Apple est donc plus chère qu'un carré Hermès. CQFD.
Boudiou, je m'en vais écrire de ce pas à le PDG de Hermès pour qu'il augmente le prix de ses carrés et qu'il les passe tout de suite à plus de 200€. Comment se pourrait-il sinon que ce qui fait sa fierté soit juste moins cher qu'un chiffon pour écran ? C'est inconcevable une telle inégalité.
Ce monde est injuste. Mais on vient de contribuer un peu à le réparer. Pfff. Ceci étant, mon cher Papounet, je suis pas sûre que le directeur de la radio apprécie que nous utilisions ce temps d'antenne gracieusement offert et d'une valeur de 10 000 euros pour critiquer notre société et faire passer cette merveilleuse radio pour un repère de gauchos irrécupérables.
Bah, comment tu fais pour évaluer ces 10 000 euros pour le créneau ?
C'est un peu au doigt mouillé, mais c'est surtout un moyen de donner de la valeur aux choses qui n'en ont que peu généralement alors qu'elles sont précieuses néanmoins.
Ah, Bill, si Bill, mais du coup, je crois que c'est plutôt 42 000 euros le créneau de 10 minutes sur cette radio. Qu'est-ce que tu voulais ne pas savoir encore sur les moteurs de recherche ?
Oh, tu sais, papa, j'adore quand tu me racontes la différence entre barre de recherche et barre d'adresse, par exemple.
Hélas, cette différence tend à devenir invisible à cause de deux facteurs. La taille des écrans et l'avidité toujours plus grande des géants du web quant à nos données.
Oh. C'est gentil, tu épaissis le mystère. C'est d'autant plus passionnant.
Il était une fois, au début des navigateurs Internet, des interfaces qui distinguaient barre d'adresse et barre de recherche. Et même encore avant, il n'y avait qu'une seule barre...
Acafrite.
Barre acafrite. Merci pour ce jeu de mots préparé, mais néanmoins désopilant et subtil. Spéciale dédicace à nos poditeurs et poditeuses de Belgique. Une seule barre, donc, qui était exclusivement une barre d'adresse.
Attends, j'ai pas tout compris. Tu peux me rajouter un peu de maillot avec les frites pour que je capte le tout, s'il te plaît ?
Dans une barre d'adresse, si tu ne saisis pas correctement l'URL du site que tu souhaites visiter, tu échoues lamentablement, telle la baleine sur une plage. Mais toi, c'est sur une page. Page qui t'annonce d'ailleurs que le site n'a pas été trouvé. Tu peux essayer avec prouloulou.fr dans la barre d'adresse de Firefox. Attention, tu peux aussi tomber sur des pages qui te font croire que tu es sur un site internet existant, avec un nom proche. C'est fait généralement pour s'accaparer du trafic. Plein de mauvaises raisons motivent la création de telles pages. C'est ce que l'on appelle du cyber-squatting.
Je viens d'essayer sur mon téléphone, mais j'ai pas de message d'erreur. J'ai une liste de suggestions de sites.
Voilà. C'est parce que sur un téléphone désormais, la barre d'adresse et la barre de recherche sont confondues. Mmh. Si tu tapes un URL pour aller directement sur un site et que tu te trompes, il considère alors que tu fais une recherche et te suggère des sites plus ou moins proches.
Ah yes, je comprends. Mon écran de téléphone portable est petit, donc il est plus simple de fusionner les deux fonctions pour gagner de la place.
Exactement, mais c'est aussi encore une belle opportunité pour les géants du web de collecter des informations au passage et d'affiner leur base de données. Si tu n'as pas visé le bon URL, tu passes automatiquement par les fourches codines de leur moteur de recherche.
Quand on est sur un ordinateur, il est donc recommandé de reparamétrer son navigateur, qui affiche désormais souvent qu'une seule et unique barre par défaut. Il faut reséparer barre d'adresse et barre de recherche. Mais quand on est sur un smartphone, on fait comment?
Ben, on le jette. Mmh. Ou on le garde juste pour jouer à Shattered Pixel Dungeon. Mmh. Bon, plus sérieusement, je ne pense pas que l'on puisse faire autrement, pour des questions d'ergonomie, de n'avoir qu'une seule barre sur un ordiphone. Dans ce cas-là, il faut utiliser les signets, activer la complétion automatique et taper correctement les URL pour limiter des requêtes inutiles qui sont plus consommatrices d'énergie. Ces conseils sont aussi valables pour un ordinateur, bien sûr, même quand on a 2 barres ou 40.
Et je n'oublie pas non plus, après avoir écouté la chronique numéro 7, où par ailleurs j'ai une délicieuse voix, d'utiliser préférentiellement les moteurs de recherche alternatifs. Ceci pour limiter les fuites de données vers les titans pervers du web qui nous attaquent. Je peux activer aussi le mode de navigation privée sur mon smartphone.
Moi qui croyais que tu ne t'intéressais pas à ce qu'on raconte dans ces chroniques, je suis un père comblé. Mais jouons avec les recherches pour appréhender à quel point cela peut être puissant. Tu te souviens quand nous avons joué avec Akinator ?
Ah mais oui, le site sur lequel on choisit un objet ou un personnage dans sa tête, et en quelques questions fermées qui paraissent improbables, le génie du site devine ce que tu penses.
Yep, par exemple, si tu choisis Astérix, en 13 questions, il devine que tu pensais à ce personnage de BD. C'est la puissance de la base de données consolidée au fil du temps qui permet d'être aussi efficace. Bien sûr, en jouant, tu contribues à alimenter cette base de données et à renforcer l'efficacité de l'algorithme. Même quand tu es de mauvaise foi, je pense que le programme en tient compte et qu'il traite la séquence de manière différente.
Impressionnant, en effet, ce soi-disant génie. Je connais aussi Webinet, tu essayes de savoir les termes les plus recherchés sur Google. Cette application précise qu'elle est une initiative indépendante et qu'il ne s'agit pas d'une marque de Google. Mais une bonne vieille belote des familles, c'est quand même plus convivial.
Je belote et je rebelote sur ta dernière phrase. D'autant que pour Akinator, ça mérite d'aller regarder les conditions générales d'utilisation du site, autrement dit les CGU. Ils disent accorder une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée de ses utilisateurs. Mais plus loin, ils listent ce qu'ils collectent.
Ah oui, attends, telle une fine lumière, j'ai trouvé les puces dans les CGU. L'adresse IP de l'appareil, la langue du système, le pays, les données de géolocalisation. Bah oui, bien sûr, c'est important quand on répond à des questions. Les données à caractère personnel que vous pourriez nous communiquer lors de la création d'un personnage sur le site, donc pseudo, image, description du personnage, langue, etc. Et enfin, toutes les données pertinentes relatives aux événements au sein du site.
Bah, jouer étant gratuit, leur modèle repose ici sur de la publicité ciblée, à utiliser avec parcimonie donc. Mais c'est assez démonstratif, je trouve, pour ressentir la force de la corrélation d'une grande quantité de données.
Mon esprit a cheminé durant cette merveilleuse chronique, surtout pendant tes répliques que je n'écoutais pas. On a peut-être oublié un argument de poids qui peut expliquer le coût exorbitant de ce vulgaire chiffon à poussière d'Apple, autrement appelé chiffonnette, et qu'un vieux gant de toilette usé pourrait allègrement remplacer.
Tu m'intrigues. Ce n'est pas dans mes habitudes d'oublier un argument de poids. D'autant que P étant égal à M multiplié par G, ça fait des masses d'accélération pour booster la réflexion.
Sur la Lune, cet argument aurait moins de poids, et il y a plus de poussière. Bref, il a fallu investir énormément d'argent et de temps pour réussir à développer un objet interopérable. Pour la première fois dans l'histoire d'Apple, tu as la possibilité d'essuyer sans entrave un autre écran qui ne serait pas de la marque.
Mais bon sang, mais c'est bien sûr que pourquoi donc on n'y avait pas pensé? C'est lumineux. C'est sans aucun doute un signe que les temps changent et l'heure semble être à l'interopérabilité. On va pouvoir se quitter sur une note d'espoir, c'est merveilleux. À la prochaine, ma puce au silicium.
Bise, mon papa Potam.
NDLR, note de le rédacteur. Il faut savoir qu'entre le début d'écriture de la chronique, début décembre, et son enregistrement début janvier, le carré Hermès a augmenté de 10 euros. Il est passé de 180 euros à 190 euros. Bien essayé, monsieur Memes, mais le centimètre carré de chiffonnette Purple reste toujours plus cher que le centimètre carré de carré Memes. Merci à vous, à bientôt et bonne année 2022.
Nous venons d'écouter la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi, que nous devrions retrouver dès le mois prochain. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Le pôle logiciel libre de la DINUM, dans le cadre de son initiative Blue Hat Semester Safcode, lance un appel pour le recrutement de stagiaires, élèves de l'école centrale Supélec, autour de projets portés par des organismes publics, des entreprises ou des collectifs. Concrètement, la structure propose des objectifs, tandis que la logistique est entièrement prise en charge par le pôle logiciel libre, par exemple l'accueil physique de la promotion Blue Hat, et par l'école centrale Supélec qui signe la convention de stage et gère les gratifications. L'appel à idées de stage est ouvert jusqu'au 6 mars à 23h59, et donc nous invitons les structures que ça intéresse à candidater. Je vous rappelle également que nous avions reçu des personnes de la DINUM, et notamment Bastien Guéry, en charge du pôle logiciel libre, dans l'émission du 14 décembre 2021. Moins réjouissant, les députés examineront demain, mercredi 16 février, en séance publique, une proposition de loi dont l'objectif est de permettre à l'autorité administrative d'ordonner à toute plateforme en ligne le retrait ou le blocage en une heure d'un contenu que cette autorité aurait qualifié de terroriste, sans donc le contrôle préalable d'un juge. Une mesure au caractère liberticide flagrant, qui avait pourtant déjà été censurée par le Conseil constitutionnel lors de son examen de la proposition de loi Avia, dite contre la lutte contre la haine en ligne. Alors je vous invite à lire le communiqué de la Quadrature du Net sur ce sujet, qu'on mettra en référence de la page de l'émission. Et merci donc à la Quadrature pour son suivi et ses actions sur ces dossiers complexes. Et je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver sur l'agenda du Libre, agendadulibre.org, des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé donc à cette émission. Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Daniel, Frédéric Couchet, Ronan Chardonneau, Alexandre Bulté, Laurent et Laurette Costi. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondin, Languin, bénévole à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets de l'émission en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Pour juste prendre un exemple, j'ai récemment reçu en commentaire sur une de nos publications que j'avais tendance à parler trop vite, à ne pas laisser assez de temps aux réponses. Et donc j'entends bien cette remarque, que je trouve très constructive. Je remercie donc l'auditeur qui m'en a fait part. Donc nous vous invitons à nous faire ces retours qui nous sont toujours utiles. Donc nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 22 février 2022 à 15h30. Notre sujet principal, qui sera un sujet inédit et donc réalisé en direct, portera sur Mobicop, une société coopérative spécialisée dans les questions de mobilité. Et elle édite notamment une plateforme de covoiturage basée sur un logiciel libre. Donc une émission très intéressante, je pense, à venir. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve en direct, donc mardi 22 février à 15h30. Et d'ici là, portez-vous bien.